Alors, je vous invite à aller dans l'évangile selon Jean, chapitre 5. Et nous allons prendre la suite. Il y a quelque temps, on avait considéré le début du chapitre 5, la guérison qui était intervenue à Bethesda. Et puis maintenant, nous allons prendre la suite. Parce que l'homme qui a été guéri, donc le paralytique de Bethesda, ne savait pas qui était Jésus, même que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais Jésus le rencontre, le confronte, et cet homme, verset 15, s'en alla et annonça aux Juifs, aux chefs des Juifs, que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs, chefs des Juifs, poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et c'est maintenant le texte que nous voulons considérer, pratiquement toute la fin du chapitre. Mais Jésus leur répondit, au chef des Juifs donc, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc ici, nous avons cette parole de Christ, tant cette confrontation. Et en fait, tout le chapitre 5, et on pourrait dire une grande partie de l'évangile selon Jean, une grande partie des évangiles, sont pris par une confrontation entre les autorités juives, les autorités religieuses et le Seigneur. Et cette confrontation particulière ici vient à la suite du miracle que Jésus a accompli à Bethesda, la guérison d'un paralytique, de quelqu'un qui était là depuis 38 ans, qui est guéri instantanément. Mais en fait, la confrontation ne vient pas tant du miracle lui-même que du fait que Jésus a demandé à cet homme de se lever, de prendre son lit et de l'amener, de marcher, de rentrer à la maison. Le jour du sabbat. Et c'est ça qui vraiment démarre la confrontation. Nous y reviendrons dans un tout petit moment. Mais c'est important pour nous de voir qu'il y a confrontation continuellement entre Christ et les hommes religieux. Enfin, entre Christ et tous les hommes, parce que tout homme est religieux. Mais ça se remarque d'autant plus chez les hommes religieux. Et là, nous allons voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce passage. On ne pourra jamais tout retirer, loin de là. Même, c'est un peu difficile parfois. Mais ce qui est vraiment, ce qui nous montre la clé du passage, c'est le fait que Christ affirme sa divinité, son égalité avec le Père, dans la différence de leur personne, et le fait que le cœur humain est un cœur religieux qui ne veut pas de Dieu. C'est tout ce que... Parce qu'à la fin du passage, Jésus s'adresse directement aux Juifs, aux chefs des Juifs, aux hommes religieux. Et il dit, mais vous cherchez le salut, mais vous ne voulez pas le voir. Ce n'est pas, comme on le verra, simplement une question d'ignorance. Donc c'est important pour nous de voir cela, de voir que Christ est venu et le salut de Dieu est venu, et ce n'est pas n'importe quel salut. Aujourd'hui, on parle de Christ un peu partout, à droite, à gauche. Ces derniers temps, on a eu des tas de magazines dont la couverture, c'était les persécutions contre les chrétiens. Et on a même eu une intervention du chef de l'État tout récemment cette semaine. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par chrétien? Il y a des crises partout, n'est-ce pas? Le salut de Dieu est là, et c'est un salut qui est très particulier. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit, et le fait que l'homme religieux, l'être humain par nature, mais bien entendu de façon plus accentuée chez l'homme religieux, celui qui s'entoure dans le manteau de la religion, il y a cette opposition innée, farouche et inébranlable, en quelque sorte, humainement parlant, une opposition, une haine de Dieu. C'est important pour nous à réaliser ça parce que, par nature, nous sommes de ces hommes et dans notre marche avec le Seigneur, puisque le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes face à des gens qui sont ainsi. Il n'y a pas des gens qui sont prédisposés. Parce que si les religieux, si quelqu'un devait être prédisposé, certainement les pharisiens étaient en première ligne. Mais ça n'est pas le cas. Donc c'est important pour nous de voir cette chose importante. L'autre chose importante à relever et à garder au fond de l'esprit, c'est que dès qu'on se pense religieux, dès qu'on pense quelque chose de soi-même, tout de suite, on prend le salut pour acquis. Quelque chose qui découle de source. Quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, que nous avons mérité. Alors, si on dit les choses noir et blanc comme ça, tout le monde se lève, c'est une levée de bouclier qui dit « Non, 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 nous croyons dans la grâce. » Mais non, parce que si nous pensons d'une manière ou d'une autre que Dieu a plus de chance ou plus de raison de nous sauver que les autres, nous détruisons la grâce. Parce que les œuvres ne sont pas quelque chose qui est simplement différent de la grâce, pas simplement opposé à la grâce. Ce sont des choses qui sont mutuellement exclusives. C'est pour ça que Paul dit dans sa lettre aux Romains, si c'est par la grâce, ça ne peut pas être par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, ça ne peut pas être par la grâce, parce que l'un détruit l'autre. Et pour nous, c'est important de garder cela à l'esprit. Dès que nous commençons à entretenir, même pas la pensée, mais la perspective, que Dieu a, d'une manière ou d'une autre, des raisons pour nous sauver, alors nous sommes dans le domaine de la religion, nous avons quitté le domaine de la grâce. Et il nous faut reconnaître que tout bon que nous sommes, ces choses-là sont au fond de nous, parce que c'est notre disposition, ce que les Anglais appellent le make-up, c'est ce qui nous fait, en fait, par nature. Et ça demande toute la puissance du Saint-Esprit pour détruire cela et pour subjuguer cela. Donc c'est important de voir cela. Parce que si on réfléchit une seconde, ici nous sommes donc en présence d'hommes religieux, mais pas simplement d'hommes religieux. Ce sont des hommes religieux stricts. Nous sommes ici avec les hommes religieux juifs et des gens qui connaissent l'Écriture. Ils passent leur temps à sonder l'Écriture. Ils la connaissent très bien. Par exemple, quand Hérode reçoit la visite des mages, des sages d'Orient, alors lui, il a entendu vaguement parler qu'il y a Christ quelque part là-dedans et qu'il y a danger pour lui. Alors il fait venir les chefs des Juifs. Il dit, mais où est-ce que le Christ doit venir? Alors rappelons-nous qu'à cette époque, il n'y a pas de chapitre. Il n'y avait pas de verset pour faciliter. Mais tout de suite, ils savent c'est Bethléem, exactement, parce que Michée. Alors, nous, est-ce qu'on arrive à trouver Michée facilement? Non. Mais eux, ils savaient qu'en Michée, il était dit quelque part, c'est Bethléem. Vous voyez? On est en face de gens comme ça, d'hommes de cette manière-là. Et certainement, si quelqu'un est prédisposé au salut, ces chefs des Juifs sont ces personnes-là. Or, ce sont précisément ceux-là même qui se dressent contre le Christ, contre l'envoyé de Dieu, et comme nous le lisons ici, qui cherchent au verset 18, qui cherchent à cause de cela encore plus à le faire mourir. Pour les Juifs, la question de faire mourir Jésus, ça c'est pas un problème, hein. C'est résolu depuis un moment, hein. Et ça, c'est la religion. Mais ils cherchent encore plus. Pourquoi? Parce que maintenant, il se met vraiment face à eux. Comment cela peut-il se faire? Ça, c'est une question légitime. Comment est-ce que des hommes qui sont plongés dans les Écritures, plongés dans la Bible, des experts de la Bible, n'est-ce pas, comment peuvent-ils en venir à s'opposer à celui dont la Bible parle? Et comme on le voit, il est important de comprendre la chose. Pourquoi? Alors, tout d'abord, c'est important pour nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas se bercer d'illusions pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous bercer d'illusions par rapport à la proclamation, à l'annonce de l'Évangile. Nous voulons comprendre quels sont les obstacles qui sont sur le chemin, qui empêchent les hommes de venir au Seigneur. Parce que beaucoup en Israël, et beaucoup depuis même, auraient accordé le salut à ses chefs. Mais le Seigneur montre que ces hommes, tout religieux qu'ils sont, ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent les Écritures, oui, mais ils ne connaissent pas l'Évangile, ce qui est le cœur ils ne viennent pas se fier à Christ, le cœur de la Bible. Ils possèdent l'Écriture. Ils connaissent l'Écriture. Ils cherchent à diriger les autres en se basant sur l'Écriture. Et ils ont bâti tout un système de lois pour cela. Pourtant, Dieu les rejette. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas parvenus au cœur de l'Écriture. Et aujourd'hui, on a la même chose. Beaucoup de gens se targuent des doctrines. Ils adoptent même un système juste de doctrine, mais ils ne sont pas en relation directe avec Christ. Alors, est-ce qu'ils sont sauvés ou pas sauvés? Ça, c'est quelque chose en dehors. On ne va pas regarder ça maintenant. Mais quand ils parlent au sujet de la vérité, ils ne sont pas en prise directe avec Christ. Et donc, ils ont divorcé la doctrine de Christ. C'est pour ça que pour nous, c'est très important d'aller toujours à Christ. Comme j'aime le dire, il n'y a pas d'élection dans la Bible. Il y a élection en Christ. Et ainsi de suite, avec toutes les vérités qu'on peut voir. Une fois que nous avons Christ, le Christ de la Bible, nous avons ces choses-là. Et ces gens ne viennent pas. Ils ont la coquille, mais ils rejettent l'amande. Alors, vous imaginez un peu, si un enfant fait cela, on va sourire, parce que l'enfant, il veut faire le petit bateau avec la coquille de noix, n'est-ce pas? Mais nous, ce qu'on veut, c'est manger la noix, parce que c'est la noix qui est bonne. La coquille, elle ne sert à rien, n'est-ce pas? Et nous voulons donc faire attention de ne pas nous tromper nous-mêmes. Quant à nous-mêmes, aller au Christ et au Christ de la Bible, mais aussi nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes par rapport aux autres, à ceux avec qui nous sommes en contact. Voir que les gens, on pense qu'ils sont proches de l'Évangile, et puis tout d'un coup on reçoit une claque dans la figure parce qu'en fait ils sont très très loin. Même des gens qui donnent, qui disent appartenir à Christ. Ces gens-là refusent, les chefs des Juifs refusent de voir quel est le cœur de l'Évangile, que c'est Christ. Donc c'est important pour nous de voir cela. Et en fait, je voudrais regarder déjà en premier, avant d'arriver dans les points différents, c'est la base de toute cette confrontation qu'il y a ici dans ce passage. Rappelons-nous que la confrontation entre Jésus et les chefs religieux découule du miracle de la guérison du paralytique. Comme tous les miracles, la guérison, là, de ce paralytique à Bethesda, pointe vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est très important. Tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, est une révélation, une auto-révélation, on pourrait dire, une révélation de lui-même. Et nous pouvons regarder les miracles, mais nous manquons le but, parce qu'il nous faut voir à travers les miracles ce Christ. On l'a déjà dit souvent, et c'est bon de revenir. Voici un homme qui est totalement impuissant, impotent. Il est là, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, là, à la belle porte du temple. Hein. Il ne peut rien faire sinon ramasser les aumônes, c'est tout. Il est là. Et il est entièrement restauré, entièrement guéri par la parole du Sauveur. Et bien entendu, cette guérison n'est pas quelque chose qui est dans l'absolu, dans le sens que cet homme, maintenant, son corps est probablement complètement disparu dans la poussière. Pourquoi? Sa guérison ne l'a pas guéri spirituellement. Il a fallu une autre œuvre de Christ pour ça. Mais la guérison que Christ donne parle de cette autre œuvre et parle de lui-même. Et quiconque est dans la mort spirituelle, dans l'impotence spirituelle, a besoin du même remède. Quel est le même remède? La parole de ce Sauveur. Le paralytique n'a pas été guéri parce que, ayant entendu l'ordre du Seigneur, il a réfléchi pour voir si cela cadrait avec la tradition et la logique, ce que les Juifs font. Non. Les Juifs, spirituellement, ils font ça, ils regardent, est-ce que ça va bien? Ils passent ça à la moulinette de leur système. Ils ne se considèrent pas, eux, les Juifs, comme morts dans leur péché. Or, l'homme, pourquoi est-ce qu'il a été sauvé? Parce que, en fait, il n'a plus d'espoir en lui-même. Et parce que la parole de Christ vient à ce moment-là. L'homme, au contraire, entend la parole de vie. Ou plutôt, je dirais que la parole de vie se fait entendre à l'homme. se fait entendre à l'homme. Cette vie le frappe et en résultat, il obéit par la foi et il est guéri. Simplement, il obéit, marche. Et il n'est pas là à se dire, mais je ne peux pas marcher. Non, il obéit. C'est ce que le Seigneur cherche ici à faire avec ces Juifs. Il est en train de présenter qui il est. Alors, il ne parle plus en termes de miracle, parce qu'il parle avec des théologiens. Il parle en termes théologiques. C'est pour ça que ce passage, des fois, est un peu difficile à comprendre, parce qu'on revient sur des tas de, d'idées un peu en cercle. Et donc, le Seigneur fait cela avec les Juifs. Il leur montre, en fait, qu'il a le droit de régner, qu'il a le droit de sauver. Rappelez-vous cette autre occasion où le paralytique a été descendu à travers le toit. Et Jésus se tourne vers les chefs des Juifs qui déjà le critiquent. Il dit, qui est-ce qui a le droit de dire ça? Il dit, mais quel est le plus simple? Quel est le plus simple? Vous, vous dites aux hommes assez facilement que leurs péchés sont pardonnés. Et maintenant, est-ce que vous pouvez relever cet homme? Alors, il va donner la preuve qu'il peut sauver en guérissant cet homme. Et en fait, les Juifs comprennent exactement son message, parce qu'ils l'accusent de se faire l'égal de Dieu. Ils lui disent, mais en fait, regardez fin du verset 18, il voulait non seulement, encore plus, le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors, c'est très intéressant, parce que le mot « violer », le mot qui est traduit « violer » ici, c'est le mot qu'on pourrait utiliser par « dissoudre ». Il dissolvait le sabbat. Et je trouvais que c'était assez intéressant, parce qu'en fait, on nous accuse d'être contre la loi. Mais c'est faux. C'est faux. Et en fait, quand on dissout le sucre dans du café, alors pour certains d'entre nous, ça fait un café qui est horrible, mais pour un autre, ici présent, c'est du très bon café. Mais le sucre n'a pas disparu. Il est dissous dans quelque chose pour faire quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus acceptable, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. En fait, le sabbat n'a pas disparu. Mais notre sabbat, c'est Christ, qui est bien plus que simplement le sucre à côté du café, n'est-ce pas? Si je reprends l'illustration. Mais ici, maintenant, Jésus vraiment n'est pas très politiquement correct, il faut le dire. Il voit que ces Juifs sont vraiment ennuyés parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. Alors, il aurait pu dire, mais il faut m'excuser, pardon. J'avais oublié. Vous savez, les jours, ça passe tellement vite. Enfin, vous connaissez les trucs comme ça. Non, au contraire. Lui, maintenant, il va encore plus loin. Il se fait l'égal de Dieu. Et alors, ce que les théologiens libéraux ne comprennent pas, les Juifs ont bien compris. Hein, parce que là, maintenant, ils cherchent encore plus à le faire mourir. Qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce qu'il va temporiser? Bon, attendez, les gars, il faut qu'on s'entende quand même un peu. Non? Non. Il va encore aller plus loin, loin de temporiser. Et il est intéressant de voir comment eux cherchent à montrer qu'ils transgressent la loi. En fait, en quelque sorte, oui, ils transgressent une loi à laquelle tout homme doit être soumis. Mais lui cherche à montrer que la guérison qu'il vient d'opérer montre qu'il n'est pas un homme ordinaire, qu'il n'est pas soumis par lui-même à la loi. Et c'est là, bien entendu, qu'on voit toute l'importance du terme « dissoudre ». Hein, il violait le sabbat. Il a le droit, en quelque sorte, pas parce qu'il le viole, mais parce qu'il lui donne sa vraie signification. Et là, le Seigneur en vient à montrer l'incrédulité qui est dans le cœur. Cette incrédulité qui, en fait, amène la paralysie du cœur. Le fait que le cœur ne peut pas s'approcher de Dieu chez ces hommes religieux. Et on s'aperçoit que, en fait, la guérison du paralytique était vraiment une très très belle image, une image très juste. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en confrontant ces Juifs qui veulent le faire mourir encore plus, lui, par contre, il cherche toujours à leur faire comprendre quel est le salut, à les amener au salut. Alors, il sait ceux qui vont être sauvés Et il sait ceux qui ne le seront pas. C'est le Seigneur de l'élection. Mais tout ce qu'il dit vise le salut. C'est intéressant et c'est important pour nous à savoir. Il faut qu'il vienne non seulement à l'Écriture, mais au cœur de l'Écriture. Et encore cette semaine dernière, je parlais avec quelqu'un qui me mentionnait un conflit qu'il y a eu parmi les responsables d'une église. Et il disait, mais celui qui est vraiment venu en porte-à-faux, il était sans arrêt en train de balancer des fléchettes, des versets, comme des fléchettes. Il dit, en fait, on peut faire dire à l'Écriture n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'il faut venir au cœur de l'Écriture, c'est-à-dire à celui que l'Écriture révèle. Et le résultat des courses, en fait, c'est qu'il y a dû y avoir séparation. Est-ce que nous sommes nous-mêmes au cœur de l'Évangile? Est-ce que nous venons au cœur de l'Évangile? Ou est-ce que nous sommes simplement arrêtés au fait qu'on comprend un système? Nous savons que notre cœur est vraiment tortueux. Et ces questions ne sont pas des questions oiseuses, parce qu'on peut se tromper tout en étant dans la vérité. Tout en étant dans la vérité. Alors, une introduction un peu longue, mais c'était important de voir, parce qu'il y a des choses, plutôt que de décortiquer complètement le passage, là, ça nous prendrait beaucoup trop longtemps, je préfère avoir vu déjà le cadre dans lequel il est là, et parce que c'est impossible qu'on voit tout ce qu'il y a dans le passage, mais je vais relever quatre choses. Quatre choses, parce que Jésus, comme je l'ai dit, loin de temporiser, loin de simplement expliquer, il fait exactement ce qu'il a fait en arrivant à Bethesda. Lui, le salut, il arrive à Bethesda, non pas invité, mais il s'invite. Alors aujourd'hui, on est en train de demander aux gens d'accepter Christ, d'inviter le Seigneur dans son cœur et tout ça. Ça, ce ne sont pas des termes bibliques. Le Seigneur est là. Il faut reconnaître qui il est et ce que nous sommes. Et la première chose que... Donc Jésus, lui, ici, en fait, il va plus loin dans la confrontation. Parce que seule la confrontation va mettre ces gens face à eux-mêmes. Et la première chose qu'il fait, que nous voulons voir, c'est ce que Jésus revendique. Ce que Jésus revendique. Donc il avait accompli un message notoire, mais les Juifs, et c'est très intéressant, les Juifs qui ont dû être convaincus par le miracle, ils mettent cela vite de côté. Ils oublient que le monsieur, maintenant, qui porte son lit, il marche, alors que pendant 38 ans, il était incapable de marcher. Tout ce qu'ils regardent, c'est que ça s'est passé le sabbat. Et ça, ça ne se fait pas. Et comme je dis, pour eux, il rendait le sabbat, il enlevait toute la puissance du sabbat, la puissance religieuse, du repos. De quel droit se permettait-il de faire cela? Et en réponse, Jésus revendique rien moins que la divinité. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est Dieu. Regardez au verset 17. Il se met dans la même catégorie que le Père. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Ça, tous les chefs des Juifs auraient été d'accord. Parce que les chefs des Juifs savaient que même leur souffle leur venait de Dieu. Ils savaient. Mais regardez, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Alors même que vos Écritures disent qu'il s'est reposé le septième jour. Et ça, c'était des concepts que les Juifs comprenaient très bien. Mais moi aussi, j'agis. Et là, les Juifs n'ont pas loupé le message. Hein. À cause de cela, ils voulaient le mettre à mort. D'autant plus. Pourquoi? Parce qu'il se fait l'égal de Dieu. L'égal de Dieu. Donc, il revendique rien moins que la divinité. Face à la réaction hostile des Juifs, que fait Jésus? Est-ce qu'il cherche à temporiser, à se rendre acceptable? N'est-ce pas ce que beaucoup de fois on essaye de faire? À essayer d'expliquer le salut, à essayer d'expliquer Christ, à essayer d'expliquer Dieu, qui est inexplicable en fait. C'est souvent ce qu'on fait. Mais au contraire, Jésus, lui, enfonce le coup. Non seulement il réclame la divinité pour lui-même, mais il montre comment il est intimement lié au Père, tout en étant distinct. C'est-à-dire qu'en fait, On ne peut pas avoir le Père sans avoir le Fils. Si on a le Fils, on a le Père. Si on a le Père, on a le Fils. Si on n'a pas le Fils, on ne peut pas avoir le Père. C'est tout ce qu'il dit ici, en fait. Donc, il montre qu'il y a des personnes distinctes, mais égales. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Et ça, c'est un témoignage que leurs Écritures leur donnaient. Mais il est intimement lié au Père. Regardez au verset 19, par exemple. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis. » Donc là, c'est vraiment la chose importante. C'est un peu comme les prophètes dans l'Ancien Testament. « Ainsi parle l'Éternel. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Or, qui est-ce qui est jamais monté auprès du Père pour voir ce que le Père fait? Le Fils est là. Et le Fils voit. Il voit ce que le Père lui fait. Et au verset 20, regardez. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Le Fils voit et le Père montre. Et bien entendu que dans la pensée de Jésus, parce que c'était un homme, il y avait très certainement l'image de l'atelier de Joseph, n'est-ce pas? Le petit Jésus, alors on va oublier Denis, mais on va parler du petit Jésus ici, mais le petit Jésus qui est là dans l'atelier en train d'aider Joseph, son père nourricier, à faire les meubles et tout ça. Comment est-ce qu'on tient le ciseau à bois? Le petit ne le sait pas. Et alors le père lui montre. Et le Fils le voit. Et les Juifs comprennent bien ces choses-là. Et en fait, ils montrent, et dans leur pensée à eux, ça n'est pas que le Père avait procréé un Fils. Non. Mais c'est que le Fils était de même nature. Vous voyez? Donc Jésus, ici, va complètement dans ce sens. Le Père ne veut pas, on va encore plus loin, le Père ne veut pas être plus honoré que le Fils. Le Père est tellement lié au Fils et le Fils tellement lié au Père que le Père, en quelque sorte, refuse tout honneur parce que la manière d'honorer le Père, c'est de passer par le Fils. Hein? Regardez les versets, à partir du verset 19, en fait. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des choses plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Il y a énormément de choses dans ce sens-là. Mais celui, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais a remis le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Alors, rappelons-nous que ça, c'est un homme qui parle, un homme juif qui parle à des Juifs. Et aucun Juif n'avait le droit de le faire. Sauf s'ils avaient bien lu Moïse. Moïse avait annoncé qu'un venait, qui allait réclamer des choses comme ceci. Et celui-là, écoutez-le. Mais avançons. On peut même aller à Jean 16, verset 13, pour voir cela encore. Jean 16, verset 13, où nous lisons. Bon, on peut commencer au verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Est-ce que ça fait que l'Esprit est moins Dieu que le Père et le Fils? Non. Mais ici, nous avons le Fils qui ne parle pas de lui-même, qui ne fait pas des choses de lui-même, il ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mais nous avons égalité, mais dans l'économie de l'alliance de la rédemption, il y a des rôles différents. Il y a des rôles différents. Et le Fils, quand il vient, il s'humilie, il se dépouille, il met de côté sa gloire. Et une des choses que cela fait, c'est que en fait, il ne parle pas de lui-même, il ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire au Père. Est-ce que le Fils n'était pas là lors du conseil éternel de la rédemption? Si, il était là, et le Saint-Esprit aussi. Mais c'est deux façons à appliquer le salut. Et donc, il y a cette union et cette unité parfaite ici entre le Père et le Fils, nous avons vu le Saint-Esprit, bien qu'ils aient des rôles différents. Le Père n'est pas venu sur la terre, mais le Fils est venu. Il a été envoyé du Père. Vous voyez, on a cette union, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais en fait, nous ne pouvons pas voir le Père, mais le Fils l'a révélé. Et celui qui a vu le Fils a vu le Père, comme dit le Seigneur lui-même. Il est important pour nous de saisir que tel est le Christ que le chrétien annonce, parce que tel est le Christ que la Bible annonce. Un Christ qui est moins que Dieu ne peut pas sauver. C'est pour ça que c'est important. Un Christ qui est moins que Dieu ne peut pas sauver. Et il nous faut, nous, revenir au cœur de l'Évangile, c'est-à-dire au Christ que déclare la parole de Dieu. Ce que les Juifs étudiaient soigneusement à éviter. Leur parole leur montrait que celui qui doit venir, il est Dieu. Mais ils ne veulent pas en entendre parler. Parce qu'on ne peut pas contrôler Dieu. Il est incontrôlable. Ce n'est pas un lion domestiqué, n'est-ce pas? Mais le miracle qu'il a fait à Bethesda montre qu'il est un tel Dieu. Donc on a vu déjà ce que Jésus revendique, la divinité, non seulement la divinité, mais l'égalité avec le Père et une union incompréhensible pour nous, mais quand même réelle, entre le Père et le Fils. Maintenant, deuxièmement, ce que Jésus revendique, la réponse que Jésus exige. Parce que non seulement Jésus réclame la divinité, mais il exige l'adoration en résultat de cela. Il est Dieu, il mérite donc, comme nous voyons au verset 23, que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et ça, c'est la déduction logique, n'est-ce pas? Si nous acceptons que le Fils est Dieu, que celui qui a été envoyé, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ, il est Dieu à part entière, autant que le Père, bien qu'étant distinct, le résultat, c'est qu'il faut l'honorer, il faut l'adorer. Le Christ que nous devons annoncer, le Christ que nous croyons, le Christ qui est à partager, n'est pas une sorte de mendiant démocratique. Et vous comprenez ce que je veux dire. Celui qui attend qu'on l'invite dans son cœur. Celui qui est là à dire « Mais accepte-moi, s'il te plaît, je te prie. » Celui qui a besoin de l'approbation des hommes. Alors régulièrement, nous sommes face à nos grands de ce monde qui, de façon pathétique, viennent chercher notre approbation. Viennent chercher à ce qu'on mette un petit bout de papier dans l'urne qui va leur permettre d'être des grands parmi nous. Ça n'est pas ce que Jésus, le Fils qui est dans la Bible. Il est le Seigneur, il est l'Éternel que tout homme doit adorer. Mais adorer, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a des tas d'idées fumeuses. On adore, on a le culte et tout ça, et sinon on va dans beaucoup d'endroits, on se demande même ce que ça veut dire. Jésus exige encore qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse. Si quelqu'un dit « je vais aller au culte », et on dit ouais, « je vais aller avec toi ». On va avec lui, on arrive, et il y a toutes sortes de pièces de théâtre, toutes choses comme ça, des cantiques, c'est même pas des cantiques, des petites chansonnettes qui n'ont aucun ni queue ni tête, et ainsi de suite. Alors, on peut dire, ça n'est pas de l'adoration. Mais il va dire, mais je me sens pris comme ça par l'esprit, tout ça. Et bon, qui est-ce qui peut discuter avec ça, n'est-ce pas? Mais en fait, on peut dire, ça n'est pas l'adoration. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut écouter quelque chose qui ne veut rien dire? Et même des fois, il y a des mimes. Comment est-ce qu'on peut écouter quelque chose qui ne dit rien? Et comment est-ce qu'on peut obéir? Or, l'adoration, c'est ça, n'est-ce pas? C'est écouter et obéir. Il est Dieu, Christ est Dieu, et même les morts l'entendront. Il dit, il n'est pas là à faire des propositions, mais celui qui l'écoute et qui croit a la vie éternelle. C'est quelque chose de certain. Ici, Jésus parle de l'œuvre de la régénération. C'est intéressant. C'est intéressant, si vous regardez au verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Alors, il y a des œuvres plus grandes qui viennent, et on pense à ce que Jésus a dit à ses apôtres lui-même, « Vous ferez des choses plus grandes. » On parle ici de la régénération, on parle ici de la rédemption, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant, « afin que vous soyez dans l'étonnement. » Est-ce que de voir les miracles même plus grands, est-ce que ça permet d'être sauvé? Non. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez le passage dans Acte 8 avec Simon le magicien. Il étonnait les gens, il les subjuguait. Et lui-même, quand il voyait Philippe, il était dans l'étonnement. Mais Pierre lui dit, tu n'as pas part à la chose. Et ici, les Juifs vont voir, les chefs des Juifs vont voir les choses plus grandes. Est-ce que ça va les amener à la foi? Non. Certains, oui, selon le dessein de Dieu. Mais avançons, parce que ce que je voulais montrer, c'est que Jésus dit, celui qui n'honore pas le Fils, au verset 23 à la fin, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire obéit, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Mais maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle du salut. Il ne parle pas de la résurrection des morts. Alors, il va en parler juste après. Mais il parle du salut. Et par exemple, si nous lisons « L'heure vient et elle est déjà venue », ça vous fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? Probablement le chapitre précédent, quand il parle à la Samaritaine, « L'heure vient et elle est déjà venue !» ou les vrais adorateurs, n'est-ce pas? Et Jésus ici est dans le chapitre 5, il est à Jérusalem, mais il est passé à Samarie avant. Et à Samarie, il y a un village qui est transformé. Il y a une femme dont la vie est complètement transformée, n'est-ce pas? Celui qui entend, et ça c'est l'œuvre de l'Esprit, et celui qui obéit, et ça c'est l'œuvre de l'Esprit, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce que Jésus exige, c'est cette adoration. Et la vraie adoration, c'est la vie éternelle. C'est cette vie qui vient par la foi, par le moyen de la foi, dans la grâce. Et c'est exactement ce dont Jésus parle quand il parle à la Samaritaine, les vrais adorateurs. Vous voyez? Et donc, nous avons celui qui écoute, il a la vie éternelle. Ici, Jésus parle donc de l'œuvre de régénération qu'il accomplit déjà par son esprit. Déjà par son esprit. Le salut a été remis au Fils. De même qu'il est venu vers le paralytique et lui a ordonné de se lever, de prendre son lit, il vient aussi et ordonne à tout homme d'écouter et de croire, d'écouter et d'obéir. Et celui en qui cette parole vient avec la vie, dans l'œuvre de l'Esprit, passe de la mort à la vie. Le Fils a reçu du Père le pouvoir d'avoir la vie en lui-même. Alors, bien entendu, le Fils, il a la vie en lui-même depuis toute éternité. Mais, dans l'économie du salut, il a reçu du Père d'avoir le pouvoir d'avoir la vie en lui-même. Et celui qui, par l'Esprit, vient à Christ, il a la vie. Il a la vie. C'est par le Fils. C'est à chacun des siens, donc, de ceux qui appartiennent à Christ, d'annoncer ce Jésus. C'est un sauveur souverain qui revendique la divinité et qui exige l'adoration, c'est-à-dire l'obéissance de tout homme. Et tout à l'heure, on a parlé on chantait Jésus-Christ est Seigneur, mais pourquoi est-ce que vous-même vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis? Dit le Seigneur. Il est le Sauveur qui appelle les hommes à la foi. Et de même que son autorité a donné la force de guérison aux paralytiques, elle fait passer les morts à la vie. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce là le Dieu, le Christ en qui je crois? Est-ce que c'est le Christ dont je parle autour de moi? Ce n'est pas un Sauveur que le monde accepte et reçoit, mais c'est le Sauveur qui vient prendre ses brebis. Donc on a vu ce que Jésus revendique, la réponse que Jésus exige, et exiger le mot. Troisièmement, les promesses que Jésus donne. Quiconque, par la puissance du Saint-Esprit et selon le dessein de Dieu, entend et obéit à la parole du Fils, c'est une œuvre trinitaire, quiconque fait cela a la vie éternelle. À la vie éternelle, c'est une promesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous avons les versets 25 à 29 qui répondent à la chose. L'heure vient, car Jésus va expier les péchés de son peuple, et elle est déjà venue, car sa voix de vie retentit déjà dans l'Évangile, où ceux qui sont morts entendront et vivront, ceux que le Père a choisis de toute éternité, pour lesquels il a envoyé le Fils, et pour lesquels le Fils va envoyer l'Esprit. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, envoyé pour accomplir le salut. Il accomplit donc le miracle de la régénération. Il parle ici du miracle de la nouvelle vie spirituelle. Et regardez en chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il ne parle pas du ciel, là. Il parle de ce que Dieu va accomplir, que ce n'est plus maintenant à Jérusalem ou Mont Gérizim, mais c'est en esprit et en vérité. C'est-à-dire dans l'Église. Dans l'Église. Celui qui entend, quand bien même il est mort, il vivra pour Dieu. Le pouvoir, Jésus dit que, ici que le Père lui a remis le pouvoir de juger. Car le Père, verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme le Père honore comme ils honorent le Père. Le jugement dont il est parlé ici, ça n'est pas le jugement dernier. On y arrive dans un moment. C'est en fait le pouvoir de trier, le pouvoir de sélectionner. Alors, c'est quelque chose que le Fils a depuis toute éternité. Ça lui a été donné dans l'Alliance. Mais le Fils donne la vie à qui il veut. Pourquoi? Parce que le Père lui a remis ce pouvoir. Et lui a remis ce pouvoir de faire pour ceux que le Père a choisis de toute éternité. Et il n'y a pas lieu de s'étonner, parce que ce pouvoir qu'il a n'est pas un pouvoir qui est sans témoignage, parce que en fait, il a dit que l'heure viendra, et elle est déjà venue, où ceux qui entendront sa voix vivront, mais il va plus loin. En vérité, commençons verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme, parce qu'il est le Sauveur. Ne vous étonnez pas de cela, car... Et alors maintenant, nous arrivons dans un autre registre, car l'heure vient, elle n'est pas encore venue, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et là, on parle du jugement. Le jugement a été remis au Fils, ce jugement dernier, qui est basé sur les mêmes bases que l'autre, n'est-ce pas? C'est le Fils, ça lui a été remis par le Père. Il n'y a pas lieu de s'étonner. Le Sauveur qui est au cœur de la Bible est ce Christ souverain qui donne la vie spirituelle et qui un jour ressuscitera tout homme, soit pour la vie éternelle, soit pour le jugement et la condamnation. Encore une fois, est-ce que notre foi et notre message reposent, se fondent sur le cœur de la Bible? Ou est-ce que nous avons simplement quelque chose qui se contente d'expliquer un livre? Comme vous voyez, c'est assez profond en fait, tout en étant dit simplement. Mais quatrième chose, parce que Jésus continue, il a réclamé la divinité, il exige l'obéissance et la foi, et il donne des promesses, c'est-à-dire que celui qui croit en lui ne croit pas en vain. Mais quatrièmement, les preuves que Jésus fournit, parce que Jésus va amener des témoignages. Témoignages. Alors on commence au verset 31. Et il a réclamé de grandes choses, et il a le droit de le faire, notamment la divinité, l'égalité avec le Père. Il a exigé, tel un monarque, l'adoration et l'obéissance. Et enfin, il donne des promesses qui sont des promesses royales. Ce n'est pas simplement des promesses d'élus. C'est des promesses pour les élus. La vie nouvelle, le salut dans la résurrection finale ou le jugement pour les impies. Et on peut imaginer que quelqu'un dise, mais attends, sur quoi est-ce que tu fondes tout ça? Qui atteste de ce que tu dis? Et Jésus, ici, anticipe une telle objection. Et il a témoignage. Alors, c'est très intéressant parce qu'au verset 31, regardez, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Mais, autre part, il a dit que son témoignage est vrai. Là, il parle à la manière des Juifs. Parce que pour tout Juif, un témoignage d'une personne n'était pas suffisant. Il fallait deux personnes. Alors Jésus dit, « Parce que nous avons un Dieu qui est prodigue, je ne vais pas vous donner le témoignage d'une autre personne, je vais vous donner tout un paquet de témoignages. » Tout un paquet de témoignages. Bien que son témoignage soit vrai, il accepte de le mettre de côté. Il y a d'autres témoignages. Et c'est ce qu'il va utiliser. Premièrement, verset 33-35, Jean-Baptiste. Ce que cet homme a annoncé, ne s'est-il pas produit? Il a répondu à une attente messianique. Jean-Baptiste a paru et il y avait une attente. À cette époque-là, tous les historiens le disent, il y avait une attente messianique. Mais regardez, vous avez envoyé une délégation vers Jean, vous avez posé des questions, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais il n'a pas simplement rendu témoignage à la vérité, il a rendu témoignage à la personne de la vérité, n'est-ce pas? Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Vous voyez, il cherche toujours à amener les Juifs vers lui-même. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Là, il reprend des passages de l'Ancien Testament. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais pourquoi vous n'entendez pas ce qu'il dit? Pourquoi vous n'entendez pas ce qu'il dit? Parce que Jean continuellement a dit, ce n'est pas moi, il y a un autre qui vient. Et est venu le moment où il a dit, voici celui-là. Donc, témoignage de Jean-Baptiste. Mais il y a un autre témoignage. Verset 36. Les miracles. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et ici, nous avons l'antidote à toutes les imbécilités des miracles que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller dans la théologie profonde pour ça. Le Père lui donne d'accomplir des miracles afin de montrer qu'il l'a envoyé, qu'il est le Christ. C'est tout. Et lui va donner le pouvoir aux apôtres pour montrer qu'ils sont apôtres du Christ. Et c'est tout. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas accomplir de miracles en dehors. Non! Mais ça n'est pas du tout la même chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Plus que les paroles de Jean, il y a le miracle, le miracle des miracles de Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'amusent avec les miracles, mais les justes n'étaient pas ainsi. Regardez, par exemple, Jean 3, 2. Enfin, on peut même commencer à la fin du chapitre 2. Il y a beaucoup qui croyaient en lui à cause des miracles, mais Jésus savait que ça n'allait nulle part. Mais regardez, chapitre 3, verset 2. Nicodème, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. » Vous voyez, en fait, ce témoignage que Christ prend, ce n'est pas simplement le témoignage, mais les Juifs comprennent ce que veulent dire les miracles. Et ça n'est pas quelque chose de simplement isolé. Allons dans 9, 30, 31. Cet homme, et là, c'est l'aveugle de naissance, qui n'est plus aveugle d'ailleurs, leur répondit aux Juifs. « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Et il a dit, « Mais on n'a jamais entendu que quelqu'un, un pécheur, puisse ouvrir les yeux d'un aveugle. Ça ne s'est jamais produit. » Vous voyez, il y avait toute une théologie. Et puis, si nous allons à la fin de l'Évangile selon Jean, hein, chapitre 20, versets 30 et 31, là nous avons un témoignage encore plus important. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ces choses, c'est-à-dire ces miracles. Et quand on analyse la construction de l'Évangile selon Jean, on s'aperçoit que c'est bâti autour d'une série de miracles pour prouver, comme il le dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voyez, il y a le témoignage des miracles. Et plus que le miracle physique, Jésus accomplit le miracle de la rédemption. Grâce à sa vie parfaite, grâce à sa mort d'expiation. Donc il y a les miracles. Ces œuvres qu'il fait parlent de lui et montre qui il est. Et les Juifs auraient dû croire. Ils auraient dû croire. Ils étaient sans excuse. Mais il y a, versets 37 et 38, le témoignage de Dieu lui-même. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Alors, le témoignage de Dieu lui-même. Dieu atteste soit de façon audible, et il l'a fait plusieurs fois pendant son ministère, soit par l'autorité et la puissance qu'il lui accorde. Et si on va par exemple en Actes 2, 22, vous connaissez le passage, nous avons le verdict apostolique là-dessus. 2, 22, homme israélite, ça c'est Pierre qui parle, premier sermon, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme, et là il parle à des Juifs encore, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dieu a apporté un témoignage pour le Juif, quelqu'un qui faisait un miracle, c'était quelqu'un qui avait un témoignage. Un témoignage. Donc, Jésus accomplit cela. Il a le témoignage de Dieu lui-même. Mais il y a le témoignage de l'Écriture aussi, au verset 39. Verset 39. « Vous sondez les Écritures. » Et là, il s'adresse à ces gens qui passaient leur temps à ergoter, on pourrait presque dire, dans les Écritures, mais ils les connaissaient. « Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Et ces gens, il faut les imaginer. Ils sont là à... Alors, quand on prépare les messages, on utilise beaucoup de commentaires et tout ça, et on a ces gens modernes pour qui l'hébreu, c'est quelque chose qui a été vraiment une galère à apprendre. Alors, ils apprennent quelques trucs, et il y en a certains qui arrivent pas mal. Et ils nous disent que là, vous voyez tel mot à telle nuance, et puis parce qu'on le trouve à tel endroit, il y a telle autre nuance. Les Juifs comprenaient ces choses-là, puisque en fait, ils parlaient comme ça. Quand ils voulaient dire que l'amour dont ils parlaient, ce n'était pas l'amour profond, profond, mais c'était un amour de... Ils savaient quelle nuance utiliser, vous voyez? Ils sont les Écritures, car ils pensent avoir en elles les... Mais alors, ces gens-là sont tellement obnubilés avec le fait qu'ils peuvent eux-mêmes trouver le salut. En fait, ils pensent avoir la vie éternelle dans ces Écritures. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les Écritures elles-mêmes sont un témoignage. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et les Juifs ont compris les Écritures, mais ils n'ont pas vu la puissance des Écritures. Et aujourd'hui, c'est exactement le même cas. Il y a des gens qui nous utilisent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et tout ça, mais qui ne parlent pas du Christ. Or, on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament. On peut comprendre l'historicité de l'Ancien Testament, mais on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans y mettre Christ. Sans y mettre Christ. C'est le témoignage de l'Écriture. Toute l'Écriture que ces Juifs étudiaient continuellement pointait vers ce Messie. Et ça n'est pas la peine de s'attarder sur la chose. Nous en parlons régulièrement de cela. On ne peut pas comprendre les choses de l'Ancien Testament à moins d'y mettre Christ. Les Écritures annonçaient qui il serait et ce qu'il ferait. Le mystère du salut n'est pas un mystère pour qui prend garde au témoignage de l'Écriture. Ainsi, lorsque Jésus explique aux disciples sur le chemin d'Emmaüs tout ce qui les concerne dans Moïse et les prophètes, l'Écriture, n'est-ce pas? Ils peuvent voir ce qui le concerne. Ils le voient, ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait? N'est-ce pas? C'est cela. Et ces Juifs ne recevaient pas le témoignage de l'Écriture. Le témoignage de Moïse. Le témoignage de Moïse. Parce que le jugement ne se basera pas sur quelques critères fumeux, sur quelque chose qui n'a pas de vraie consistance. Ce sera sur la base de Moïse. La base de Moïse. Moïse a donné la loi que nul homme ne peut observer. Et Moïse lui-même l'a bien expliqué. C'est pour ça toute la raison du Deutéronome, la deuxième explication de la loi, n'est-ce pas? Il a annoncé le prophète qui est comme lui et qui doit venir et qu'il faut écouter. Et les Juifs, qui étaient très friands de Moïse, refusaient ce témoignage. C'était le témoignage qui les condamnait, en fait. C'était le témoignage qui les condamnait. Et cela, en fait, met le cœur à nu, et nous terminons avec cela. Cela met le cœur à nu, parce que Jésus, ici, au verset 39, il dit, vous sondez les Écritures. Est-ce que c'est un mal de sonder les Écritures? Non, ce n'est pas un mal. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. La vie éternelle est cachée, en quelque sorte, dans l'Écriture. C'est le mystère du salut. Mais voilà comment est-ce qu'on peut résoudre cela. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et où est le problème? Où est la mise à nu du cœur? Écoutez bien. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent avoir la vie. Déjà, regardez verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Pourtant, celui qui se croit dans la mort, celui qui croit qu'il est en train de se noyer, il n'envoie pas la bouée au centre de test pour vérifier si vraiment elle peut le porter, non? Non, comment? Et alors, surtout, il y a quelque chose qui est là, qui se tient au milieu, qui se tient, qui les inocule, en quelque sorte, contre le salut. Regardez, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont le recevoir? Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Et n'est-ce pas ce que nous voyons dans le monde religieux? N'est-ce pas ce que nous voyons dans le monde tout court? Hein? Comme quoi on accepte l'autre personne parce que si on n'accepte pas l'autre personne, ben elle ne va pas nous accepter. Et en fait, franchement, on a quelqu'un qui est vraiment bien. Vous qui cherchez, qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, qui vient de Dieu seul. Parce que s'ils croyaient Moïse, ils auraient vu qu'en fait, il y avait un besoin inéluctable pour cet autre prophète, le grand prophète qui doit venir et qui donne le salut. Et donc, nous sommes face à nous-mêmes comme ces Juifs. Comme ces Juifs. Est-ce que c'est le Jésus en qui nous croyons? Est-ce que c'est ce Christ que nous annonçons? Est-ce que c'est ce Christ à qui nous, dans le nom de qui nous adressons nos prières? Parce que sinon, tout le reste nous garde dans la prison de l'incrédulité, dans la prison de la gloire personnelle. Et ça, c'est terrible. Et bien entendu, si nous avions dit cela à ces Juifs, ils auraient dit, mais non, franchement, nous ne sommes pas... L'incrédulité est très logique pour l'incrédule. Elle est surtout très pratique, il faut le dire. Et ne pensons pas que nous sommes à l'abri de ces choses-là. Donc, entendons la voix de Christ et sondons-nous. Faisons comme le psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Teste-moi. Et le croyant, en fait, est celui en qui Dieu œuvre de telle manière à ce qu'il s'ouvre à cela. Donc, que le Seigneur nous donne de méditer sur ces choses et de comprendre la vérité spirituelle qui est derrière tout cela. Amen.